Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com. Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com.
L'intersigne, des contes cruels. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet, Contes cruels par Auguste de Villiers de l'Isle-Adam, L'intersigne. À Monsieur l'abbé Victor de Villiers de l'Isle-Adam. Attende, homo. Quid fuisti ante hortum et quod eris usque ad occasum? Profecto fuit, quod non eras. Postea, de vili materia factus, in utero matris de sanguine menstruali nutritus, tunica tua fuit pelis secundina. De inde, in vilissimo panno in volutus, progressus es ad nos, sic indutus et ornatus. Et non memor esque sit origo tua. Nibil est aliud homo quam sperma fœtidum, sacus tercorum, quibus vermium. Scientia, sapientia, ratio, sine deo sicut nubes transeunt. Post hominem vermis, post vermem, foetor et horror. Sic, in no hominem, vertitus omnis homo. Cur carnem tuam adornas, et impinguas quam, post paucos dies, vermes devoraturi sunt in sepulcro, animam, vero, tuam non adornas. Quae Deo et Angelis, eius presentenda est in coelis. Saint Bernard, Méditation, tome 2. Bollandiste, préparation au jugement dernier. Un soir d'hiver, qu'entre gens de pensée nous prenions le thé, autour d'un bon feu, chez l'un de nos amis, le baron Xavier de la V, un pâle jeune homme que d'assez longues fatigues militaires, subies, très jeune encore, en Afrique, avait rendu d'une débilité de tempérament et d'une sauvagerie de mœurs peu communes, la conversation tomba sur un sujet des plus sombres. Il était question de la nature de ces coïncidences extraordinaires, stupéfiantes, mystérieuses, qui surviennent dans l'existence de quelques personnes. « Voici une histoire, nous dit-il, que je n'accompagnerai d'aucun commentaire. Elle est véridique. Peut-être la trouverez-vous impressionnante. » Nous allumâmes des cigarettes et nous écoutâmes le récit suivant. En 1876, au solstice de l'automne, vers ce temps où le nombre, toujours croissant, des inhumations accomplies à la légère, beaucoup trop précipitées enfin, commençait à révolter la bourgeoisie parisienne et à la plonger dans les alarmes, un certain soir, sur les 8 heures, à l'issue d'une séance de spiritisme des plus curieuses, je me sentis, en rentrant chez moi, sous l'influence de ce spleen héréditaire dont la noire obsession déjoue et réduit à néant les efforts de la faculté. C'est en vain qu'à l'instigation doctorale j'ai dû, maintes fois, m'enivrer du breuvage d'Avicenne. En vain me suis-je assimilé, sous toute formule, des quintaux de fer et, foulant aux pieds tous les plaisirs, ai-je fait descendre, nouveau Robert d'Arbrissel, le vif argent de mes ardentes passions jusqu'à la température des Samoyèdes. Rien n'a prévalu. Allons, il paraît décidément que je suis un personnage taciturne et morose. Mais il faut aussi que, sous une apparence nerveuse, je sois, comme on dit, bâti à chaux et à sable, pour me trouver encore à même, après tant de soins, de pouvoir contempler les étoiles. Ce soir-là, donc, une fois dans ma chambre, en allumant un cigare aux bougies de la glace, je m'aperçus que j'étais mortellement pâle, et je m'ensevelis dans un ample fauteuil, vieux meuble en velours grenat capitonné, où le vol des heures, sous mes longues songeries, me semble moins lourd. L'accès de spleen devenait pénible jusqu'au malaise, jusqu'à l'accablement. Et, jugeant impossible d'en secouer les ombres par aucune distraction mondaine, surtout au milieu des horribles soucis de la capitale, je résolus, par essai, de m'éloigner de Paris, d'aller prendre un peu de nature au loin, de me livrer à de vifs exercices, à quelques salubres parties de chasse, par exemple, pour tenter de diversifier. À peine cette pensée me fut-elle venue, à l'instant même où je me décidais pour cette ligne de conduite, le nom d'un vieil ami, oublié depuis des années, l'abbé Maucombe, me passa dans l'esprit. « L'abbé Maucombe !» dis-je à voix basse. Ma dernière entrevue avec le savant prêtre datait du moment de son départ pour un long pèlerinage en Palestine. La nouvelle de son retour m'était parvenue autrefois. Il habitait l'humble presbytère d'un petit village en Basse-Bretagne. Maucombe devait y disposer d'une chambre quelconque, d'un réduit. Sans doute, il avait amassé, dans ses voyages, quelques anciens volumes, des curiosités du Liban. Les étangs, auprès des manoirs voisins, recélaient, à le parier, du canard sauvage. Quoi de plus opportun? Et si je voulais jouir, avant les premiers froids, de la dernière quinzaine du féerique mois d'octobre dans les rochers rougis, si je tenais à voir encore resplendir les longs soirs d'automne sur les hauteurs boisées, je devais me hâter. La pendule sonna 9 heures. Je me levai, je secouai la cendre de mon cigare. Puis, en homme de décision, je mis mon chapeau, ma houppelande et mes gants, je pris ma valise et mon fusil, je soufflai les bougies, et je sortis, en fermant sournoisement et à triple tour la vieille serrure à secret qui fait l'orgueil de ma porte. 3 quarts d'heure après, le convoi de la ligne de Bretagne m'emportait vers le petit village de Saint-Maur, desservi par l'abbé Maucombe. J'avais même trouvé le temps, à la gare, d'expédier une lettre crayonnée à la hâte, en laquelle je prévenais mon père de mon départ. Le lendemain matin, j'étais à R, d'où Saint-Maur n'est distant que de 2 lieues environ. Désireux de conquérir une bonne nuit, afin de pouvoir prendre mon fusil dès le lendemain au point du jour, et toute sieste d'après-déjeuner me semblant capable d'empiéter sur la perfection de mon sommeil, je consacrai ma journée, pour me tenir éveillé malgré la fatigue, à plusieurs visites chez d'anciens compagnons d'études. Vers 5 heures du soir, ces devoirs remplis, je fis sceller, au soleil d'or, où j'étais descendu, et, aux lueurs du couchant, je me trouvais en vue d'un hameau. Chemin faisant, je m'étais remémoré le prêtre chez lequel j'avais dessein de m'arrêter pendant quelques jours. Le laps de temps qui s'était écoulé depuis notre dernière rencontre, les excursions, les événements intermédiaires et les habitudes d'isolement devaient avoir modifié son caractère et sa personne. J'allais le retrouver grisonnant. Mais je connaissais la conversation fortifiante du docteur recteur, et je me faisais une espérance de songer aux veillées que nous allions passer ensemble. « L'abbé Maucombe !» ne cessai-je de me répéter tout bas. « Excellente idée !» En interrogeant sur sa demeure les vieilles gens qui paissaient les bestiaux le long des fossés, je dus me convaincre que le curé, en parfait confesseur d'un dieu de miséricorde, s'était profondément acquis l'affection de ses ouailles, et, lorsqu'on m'eut bien indiqué le chemin du presbytère, assez éloigné du pâté de masure et de chaumine qui constitue le village de Saint-Maur, je me dirigeais de ce côté. J'arrivais. L'aspect champêtre de cette maison, les croisées et leurs jalousies vertes, les 3 marches de grès, les lierres, les clématites et les rosetés qui s'enchevêtraient sur les murs jusqu'au toit, d'où s'échappait, d'un tuyau à girouette, un petit nuage de fumée, m'inspirèrent des idées de recueillement, de santé et de paix profonde. Les arbres d'un verger voisin montraient, à travers un treillis d'enclos, leurs feuilles rouillées par l'énervante saison. Les 2 fenêtres de l'unique étage brillaient des feux de l'Occident. Une niche où se tenait l'image d'un bienheureux était creusée entre elles. Je mis pied à terre, silencieusement. J'attachai le cheval au volet et je levai le marteau de la porte en jetant un coup d'œil de voyageur à l'horizon derrière moi. Mais l'horizon brillait tellement sur les forêts de chênes lointains et de pins sauvages où les derniers oiseaux s'envolaient dans le soir, les eaux d'un étang couvert de roseaux, dans l'éloignement, réfléchissaient si solennellement le ciel, la nature était si belle, au milieu de ces airs calmés, dans cette campagne déserte, à ce moment où tombe le silence, que je restais, sans quitter le marteau suspendu, que je restais muet. Ô toi, pensais-je, qui n'as point l'asile de tes rêves, et pour qui la terre de Shannan, avec ses palmiers et ses eaux vives, n'apparaît pas, au milieu des aurores, après avoir tant marché sous de dures étoiles, voyageur si joyeux au départ, et maintenant assombri, cœur fait pour d'autres exils que ceux dont tu partages l'amertume avec tes frères mauvais, regarde! Ici l'on peut s'asseoir sur la pierre de la mélancolie. Ici les rêves morts ressuscitent, devançant les moments de la tombe. Si tu veux avoir le véritable désir de mourir, approche. Ici, la vue du ciel exalte jusqu'à l'oubli. J'étais dans cet état de lassitude où les nerfs sensibilisés vibrent aux moindres excitations. Une feuille tomba près de moi. Son bruissement furtif me fit tressaillir. Et le magique horizon de cette contrée entra dans mes yeux. Je m'assis devant la porte, solitaire. Après quelques instants, comme le soir commençait à fraîchir, je revins au sentiment de la réalité. Je me levai très vite et je repris le marteau de la porte en regardant la maison riante. Mais à peine eus-je de nouveau jeté sur elle un regard distrait que je fus forcé de m'arrêter encore, me demandant, cette fois, si je n'étais pas le jouet d'une hallucination. Était-ce bien la maison que j'avais vue tout à l'heure? Quelle ancienneté me dénonçait, maintenant, les longues lézardes entre les feuilles pâles? Cette bâtisse avait un air étranger. Les carreaux illuminés par les rayons d'agonie du soir brûlaient d'une lueur intense. Le portail hospitalier m'invitait avec ses trois marches. Mais, en concentrant mon attention sur ces dalles grises, je vis qu'elles venaient d'être polies, que des traces de lettres creusées y restaient encore, et je vis bien qu'elles provenaient du cimetière voisin, dont les croix noires m'apparaissaient, à présent, de côté, à une centaine de pas. Et la maison me sembla changer à donner le frisson, et les échos du lugubre coup du marteau, que je laissai retomber, dans mon saisissement, retentirent, dans l'intérieur de cette demeure, comme les vibrations d'un glas. Ces sortes de vues, étant plutôt morales que physiques, s'effacent avec rapidité. Oui, j'étais, à n'en pas douter une seconde, la victime de cet abattement intellectuel que j'ai signalé. Très empressé de voir un visage qui m'aida, par son humanité, à en dissiper le souvenir, je poussai le loquet sans attendre davantage. J'entrai. La porte, mue par un poids d'horloge, se referma d'elle-même derrière moi. Je me trouvai dans un long corridor, à l'extrémité duquel Nanon, la gouvernante, vieille et réjouie, descendait l'escalier, une chandelle à la main. « Monsieur Xavier !» s'écria-t-elle, toute joyeuse en me reconnaissant. « Bonsoir, ma bonne Nanon !» lui répondis-je, en lui confiant, à la hâte, ma valise et mon fusil. J'avais oublié ma houppelande dans ma chambre, au soleil d'or. Je montai. Une minute après, je serrai dans mes bras mon vieil ami. L'affectueuse émotion des premières paroles et le sentiment de la mélancolie du passé nous oppressèrent quelque temps, l'abbé et moi. Nanon vint nous apporter la lampe et nous annoncer le souper. « Mon cher Maucombe, lui dis-je en passant mon bras sous le sien pour descendre, c'est une chose de toute éternité que l'amitié intellectuelle, et je vois que nous partageons ce sentiment. » « Il est des esprits chrétiens d'une parenté divine très rapprochée, » me répondit-il. « Oui. Le monde a des croyances moins raisonnables pour lesquelles des partisans se trouvent qui sacrifient leur sang, leur bonheur, leur devoir. Ce sont des fanatiques, » acheva-t-il en souriant. « Choisissons, pour foi, la plus utile, puisque nous sommes libres et que nous devenons notre croyance. « Le fait est, » lui répondis-je, « qu'il est déjà très mystérieux que deux et deux fassent quatre. » Nous passâmes dans la salle à manger. Pendant le repas, l'abbé, m'ayant doucement reproché l'oubli où je l'avais tenu si longtemps, me mit au courant de l'esprit du village. Il me parla du pays, me raconta deux ou trois anecdotes touchant les châtelains des environs. Il me cita ses exploits personnels à la chasse et ses triomphes à la pêche. Pour tout dire, il fut d'une affabilité et d'un entrain charmant. Nanon, messager rapide, s'empressait, se multipliait autour de nous, et sa vaste coiffe avait des battements d'ailes. Comme je roulais une cigarette en prenant le café, Maucombe, qui était un ancien officier de dragons, m'imita. Le silence des premières bouffées nous ayant surpris dans nos pensées, je me mis à regarder mon hôte avec attention. Ce prêtre était un homme de 45 ans, à peu près, et d'une haute taille. De longs cheveux gris entouraient de leurs boucles enroulées sa maigre et forte figure. Les yeux brillaient de l'intelligence mystique. Ses traits étaient réguliers et austères. Le corps, svelte, résistait aux plis des années. Il savait porter sa longue soutane. Ses paroles, empreintes de science et de douceur, étaient soutenues par une voix bien timbrée, sortie d'excellents poumons. Il me paraissait enfin d'une santé vigoureuse. Les années l'avaient fort peu atteint. Il me fit venir dans son petit salon bibliothèque. Le manque de sommeil, en voyage, prédispose aux frissons. La soirée était d'un froid vif, avant-coureur de l'hiver. Aussi, lorsqu'une brassée de sarments flamba devant mes genoux, entre deux ou trois rondins, j'éprouvais quelque réconfort. Les pieds sur les chenets, et accoudés en nos deux fauteuils de cuir bruni, nous parlâmes naturellement de Dieu. J'étais fatigué, j'écoutais, sans répondre. « Pour conclure, me dit Maucombe en se levant, nous sommes ici pour témoigner, par nos œuvres, nos pensées, nos paroles et notre lutte contre la nature, pour témoigner si nous pesons le poids. » Et il termina par une citation de Joseph de Maistre, « Entre l'homme et Dieu, il n'y a que l'orgueil. » Ce nonobstant, lui dis-je, nous avons l'honneur d'exister, nous les enfants gâtés de cette nature, dans un siècle de lumière. Préférons-lui la lumière des siècles, répondit-il en souriant. Nous étions arrivés sur le palier, nos bougies à la main. Un long couloir, parallèle à celui d'en bas, séparait de celle de mon hôte la chambre qui m'était destinée. Il insista pour m'y installer lui-même. Nous y entrâmes. Il regarda s'il ne me manquait rien, et comme, rapprochés, nous nous donnions la main et le bonsoir, un vivace reflet de ma bougie tomba sur son visage. Je tressaillis cette fois. Était-ce un agonisant qui se tenait debout, là, près de ce lit? La figure qui était devant moi n'était pas, ne pouvait pas être celle du souper. Ou, du moins, si je la reconnaissais vaguement, il me semblait que je ne l'avais vue, en réalité, qu'en ce moment-ci. Une seule réflexion me fera comprendre. L'abbé me donnait, humainement, la seconde sensation que, par une obscure correspondance, sa maison m'avait fait éprouver. La tête que je contemplais était grave, très pâle, d'une pâleur de mort, et les paupières étaient baissées. Avait-il oublié ma présence? Priait-il? Qu'avait-il donc à se tenir ainsi? Sa personne s'était revêtue d'une solennité si soudaine que je fermai les yeux. Quand je les rouvris, après une seconde, le bon abbé était toujours là, mais je le reconnaissais maintenant. À la bonne heure, son sourire amical dissipait en moi toute inquiétude. L'impression n'avait pas duré le temps d'adresser une question. Ça avait été un saisissement, une sorte d'hallucination. Maucombe me souhaita, une seconde fois, la bonne nuit, et se retira. Une fois seul, un profond sommeil, voilà ce qu'il me faut, pensai-je. Incontinent, je songeais à la mort. J'élevai mon âme à Dieu, et je me mis au lit. L'une des singularités d'une extrême fatigue est l'impossibilité du sommeil immédiat. Tous les chasseurs ont éprouvé ceci. C'est un point de notoriété. Je m'attendais à dormir vite et profondément. J'avais fondé de grandes espérances sur une bonne nuit. Mais, au bout de 10 minutes, je dus reconnaître que cette gêne nerveuse ne se décidait pas à s'engourdir. J'entendais des tic-tac, des craquements brefs du bois et des murs. sans doute des horloges de mort. Chacun des bruits imperceptibles de la nuit se répandait, en tout mon être, par un coup électrique. Les branches noires se heurtaient dans le vent, au jardin. À chaque instant, des brins de lierre frappaient ma vitre. J'avais, surtout, le sens de l'ouïe d'une acuité pareille à celle des gens qui meurent de faim. J'ai pris 2 tasses de café, pensais-je, c'est cela. Et, m'accoudant sur l'oreiller, je me mis à regarder, obstinément, la lumière de la bougie, sur la table, auprès de moi. Je la regardais avec fixité, entre les cils, avec cette attention intense que donne au regard l'absolue distraction de la pensée. Un petit bénitier, en porcelaine coloriée, avec sa branche de buis, était suspendu auprès de mon chevet. Je mouillai, tout à coup, mes paupières avec de l'eau bénite, pour les rafraîchir, puis j'éteignis la bougie et je fermai les yeux. Le sommeil s'approchait, la fièvre s'apaisait. J'allais m'endormir. 3 petits coups secs, impératifs, furent frappés à ma porte. « Hein ?» me dis-je en sursaut. Alors je m'aperçus que mon premier somme avait déjà commencé. J'ignorais où j'étais. Je me croyais à Paris. Certains repos donnent ces sortes d'oublis risibles. Ayant même, presque aussitôt, perdu de vue la cause principale de mon réveil, je m'étirai voluptueusement dans une complète inconscience de la situation. « À propos, me dis-je tout à coup, mais on a frappé. Quelle visite peut bien... » À ce point de ma phrase, une notion confuse et obscure que je n'étais plus à Paris, mais dans un presbytère de Bretagne, chez l'abbé Maucombe, me vint à l'esprit. En un clin d'œil, je fus au milieu de la chambre. Ma première impression, en même temps que celle du froid aux pieds, fut celle d'une vive lumière. La pleine lune brillait en face de la fenêtre, au-dessus de l'église, et, à travers les rideaux blancs, découpait son angle de flamme déserte et pâle sur le parquet. Il était bien minuit. Mes idées étaient morbides. Qu'était-ce donc? L'ombre était extraordinaire. Comme je m'approchais de la porte, une tache de braise, partie du trou de la serrure, vint errer sur ma main et sur ma manche. Il y avait quelqu'un derrière la porte. On avait réellement frappé. Cependant, à 2 pas du loquet, je m'arrêtai court. Une chose me paraissait surprenante, la nature de la tache qui courait sur ma main. C'était une lueur glacée, sanglante, n'éclairant pas. D'autre part, comment se faisait-il que je ne voyais aucune ligne de lumière sous la porte, dans le corridor? Mais, en vérité, ce qui sortait ainsi du trou de la serrure me causait l'impression du regard phosphorique d'un hibou. En ce moment, l'heure sonna, dehors, à l'église, dans le vent nocturne. « Qui est là ?» demandai-je, à voix basse. La lueur s'éteignit. J'allais m'approcher. Mais la porte s'ouvrit, largement, lentement, silencieusement. En face de moi, dans le corridor, se tenait, debout, une forme haute et noire, un prêtre, le tricorne sur la tête. La lune l'éclairait tout entier, à l'exception de la figure. Je ne voyais que le feu de ses 2 prunelles qui me considéraient avec une solennelle fixité. Le souffle de l'autre monde enveloppait ce visiteur. Son attitude m'oppressait l'âme. Paralysé par une frayeur qui s'enfla instantanément jusqu'au paroxysme, je contemplais le désolant personnage en silence. Tout à coup, le prêtre éleva le bras, avec lenteur, vers moi. Il me présentait une chose lourde et vague. C'était un manteau. Un grand manteau noir, un manteau de voyage. Il me le tendait comme pour me l'offrir. Je fermai les yeux pour ne pas voir cela. Oh, je ne voulais pas voir cela. Mais un oiseau de nuit, avec un cri affreux, passa entre nous et le vent de ses ailes, m'effleurant les paupières, me les fit rouvrir. Je sentis qu'il voletait par la chambre. Alors, et avec un râle d'angoisse, car les forces me trahissaient pour crier, je repoussai la porte de mes 2 mains crispées et étendues et je donnai un violent tour de clé, frénétique et les cheveux dressés. Chose singulière, il me sembla que tout cela ne faisait aucun bruit. C'était plus que l'organisme n'en pouvait supporter. Je m'éveillais. J'étais assis sur mon séant, dans mon lit, les bras tendus devant moi. J'étais glacé, le front trempé de sueur. Mon cœur frappait contre les parois de ma poitrine de gros coups sombres. « Ah ! » me dis-je, « le songe horrible !» Toutefois, mon insurmontable anxiété subsistait. Il me fallut plus d'une minute avant d'oser remuer le bras pour chercher les allumettes. J'appréhendais de sentir, dans l'obscurité, une main froide saisir la mienne et la presser amicalement. J'eus un mouvement nerveux en entendant ces allumettes bruire sous mes doigts dans le fer du chandelier. Je rallumai la bougie. Instantanément, je me sentis mieux. La lumière, cette vibration divine, diversifie les milieux funèbres et console des mauvaises terreurs. Je résolus de boire un verre d'eau froide pour me remettre tout à fait et je descendis du lit. En passant devant la fenêtre, je remarquai une chose. La lune était exactement pareille à celle de mon songe, bien que je ne l'eusse pas vue avant de me mettre au lit. Et, en allant, la bougie à la main, examiner la serrure de la porte, je constatai qu'un tour de clé avait été donné en dedans, ce que je n'avais point fait avant mon sommeil. À ces découvertes, je jetai un regard autour de moi. Je commençai à trouver que la chose était revêtue d'un caractère bien insolite. Je me recouchai, je m'accoudai, je cherchai à me raisonner, à me prouver que tout cela n'était qu'un accès de somnambulisme très lucide, mais je me rassurai de moins en moins. Cependant la fatigue me prit comme une vague, berça mes noires pensées et m'endormit brusquement dans mon angoisse. Quand je me réveillai, un bon soleil jouait dans la chambre. C'était une matinée heureuse. Ma montre, accrochée au chevet du lit, marquait 10 heures. Or, pour nous réconforter, est-il rien de tel que le jour, le radieux soleil? Surtout quand on sent les dehors embaumés et la campagne pleine d'un vent frais dans les arbres, les fourrés épineux, les fossés couverts de fleurs et tout humides d'aurore. Je m'habillai à la hâte, très oublieux du sombre commencement de ma nuitée. Complètement ranimé par des ablutions réitérées d'eau fraîche, je descendis. L'abbé Maucombe était dans la salle à manger. Assis devant la nappe déjà mise, il lisait un journal en m'attendant. Nous nous serrâmes la main. « Avez-vous passé une bonne nuit, mon cher Xavier ?» me demanda-t-il. « Excellente, » répondis-je distraitement, par habitude et sans accorder attention le moins du monde à ce que je disais. « La vérité est que je me sentais bon appétit, voilà tout. » Nanon intervint, nous apportant le déjeuner. Pendant le repas, notre causerie fut à la fois recueillie et joyeuse. L'homme qui vit saintement connaît, seul, la joie et sait la communiquer. Tout à coup, je me rappelai mon rêve. « À propos, m'écriai-je, mon cher abbé, il me souvient que j'ai eu cette nuit un singulier rêve, et d'une étrangeté, comment puis-je exprimer cela, voyons, saisissante, étonnante, effrayante, à votre choix, jugez-en. » Et, tout en pelant une pomme, je commençai à lui narrer, dans tous ses détails, l'hallucination sombre qui avait troublé mon premier sommeil. Au moment où j'en étais arrivé au geste du prêtre m'offrant le manteau, et avant que j'eusse entamé cette phrase, la porte de la salle à manger s'ouvrit. Nanon, avec cette familiarité particulière aux gouvernantes de curé, entra, dans le rayon du soleil, au beau milieu de la conversation, et, m'interrompant, me tendit un papier. « Voici une lettre très pressée que le rural vient d'apporter, à l'instant, pour monsieur, » dit-elle. « Une lettre, déjà ? » m'écriai-je, oubliant mon histoire. « C'est de mon père. »« Comment cela ? Mon cher abbé, vous permettez que je lise, n'est-ce pas ?»« Sans doute, » dit l'abbé Maucombe, perdant également l'histoire de vue et subissant, magnétiquement, l'intérêt que je prenais à la lettre. « Sans doute. » Je décachetai. Ainsi l'incident de Nanon avait détourné notre attention par sa soudaineté. « Voilà, dis-je, une vive contrariété, mon hôte. À peine arrivé, je me vois obligé de repartir. Comment ? » demanda l'abbé Maucombe, reposant sa tasse sans boire. « Il m'est écrit de revenir en toute hâte, au sujet d'une affaire, d'un procès d'une importance des plus graves. Je m'attendais à ce qu'il ne se plaidât qu'en décembre. Or, On m'avise qu'il se juge dans la quinzaine, et comme, seul, je suis à même de mettre en ordre les dernières pièces qui doivent nous donner gain de cause, il faut que j'aille. Allons, quel ennui! Positivement, c'est fâcheux, dit l'abbé. Comme c'est donc fâcheux! Au moins, promettez-moi qu'aussitôt ceci terminé, la grande affaire, c'est le salut. J'espérais être pour quelque chose dans le vôtre, et voici que vous vous échappez. Je pensais déjà que le bon Dieu vous avait envoyé. Mon cher abbé, m'écriai-je, je vous laisse mon fusil. Avant 3 semaines, je serai de retour, et, cette fois, pour quelques semaines, si vous voulez. Allez donc en paix, dit l'abbé Maucombe. Eh, c'est qu'il s'agit de presque toute ma fortune, murmurai-je. La fortune, c'est Dieu, dit simplement Maucombe. Et demain, comment vivrai-je si... Demain, on ne vit plus, répondit-il. Bientôt, nous nous levâmes de table, un peu consolés du contretemps par cette promesse formelle de revenir. Nous allâmes nous promener dans le verger, visiter les attenances du presbytère. Toute la journée, l'abbé m'étala, non sans complaisance, ses pauvres trésors champêtres. Puis, pendant qu'il lisait son bréviaire, je marchais, solitairement, dans les environs, respirant l'air vivace et pur avec délice. Maucombe, à son retour, s'étendit quelque peu sur son voyage en Terre Sainte. Tout cela nous conduisit jusqu'au coucher du soleil. Le soir vint. Après un frugal souper, je dis à l'abbé Maucombe « Mon ami, l'express part à 9 heures précises. D'ici R, j'ai bien 1 heure et demie de route. Il me faut 1/2 heure pour régler à l'auberge en y reconduisant le cheval. Total 2 heures. Il en est 7, je vous quitte à l'instant. » « Je vous accompagnerai un peu, » dit le prêtre. « Cette promenade me sera salutaire. » « À propos, » lui répondis-je, préoccupé, « voici l'adresse de mon père, chez qui je demeure à Paris, si nous devons nous écrire. » Nanon prit la carte et l'inséra dans une jointure de la glace. 3 minutes après, l'abbé et moi, nous quittions le presbytère et nous nous avancions sur le grand chemin. Je tenais mon cheval par la bride, comme de raison. Nous étions déjà 2 ombres. 5 minutes après notre départ, une bruine pénétrante, une petite pluie, fine et très froide, portée par un affreux coup de vent, frappa nos mains et nos figures. Je m'arrêtai court. « Mon vieil ami, dis-je à l'abbé, non, décidément, je ne souffrirai pas cela. Votre existence est précieuse, et cette ondée glaciale est très malsaine. Rentrez. Cette pluie, encore une fois, pourrait vous mouiller dangereusement. Rentrez, je vous en prie. » L'abbé, au bout d'un instant, songeant à ses fidèles, se rendit à mes raisons. « J'emporte une promesse, mon cher ami, » me dit-il. Et, comme je lui tendais la main, « Un instant, » ajouta-t-il, « je songe que vous avez du chemin à faire et que cette bruine est, en effet, pénétrante. » Il eut un frisson. Nous étions l'un auprès de l'autre, immobiles, nous regardant fixement comme 2 voyageurs pressés. En ce moment, la lune s'éleva sur les sapins, derrière les collines, éclairant les landes et les bois à l'horizon. Elle nous baigna spontanément de sa lumière morne et pâle, de sa flamme déserte et pâle. Nos silhouettes et celles du cheval se dessinèrent, énormes, sur le chemin. Et, du côté des vieilles croix de pierre, là-bas, du côté des vieilles croix en ruine qui se dressent en ce canton de Bretagne, dans les écreboissés où perchent les funestes oiseaux échappés du bois des agonisants, j'entendis, au loin, un cri affreux, l'aigre et alarmant fausset de la freusée. Une chouette aux yeux de phosphore, dont la lueur tremblait sur le grand bras d'une gneuse, s'envola et passa entre nous, en prolongeant ce cri. « Allons, » continua l'abbé Maucombe. Moi, je serai chez moi dans 1 minute. Ainsi, prenez, prenez ce manteau. J'y tiens beaucoup, beaucoup, » ajouta-t-il avec un ton inoubliable. « Vous me le ferez renvoyer par le garçon d'auberge qui vient au village tous les jours. Je vous en prie. » L'abbé, en prononçant ces paroles, me tendait son manteau noir. Je ne voyais pas sa figure, à cause de l'ombre que projetait son large tricorne. Mais je distinguais ses yeux, qui me considérait avec une solennelle fixité. Il me jeta le manteau sur les épaules, me l'agrafa d'un air tendre et inquiet, pendant que, sans force, je fermais les paupières. Et, profitant de mon silence, il se hâta vers son logis. Au tournant de la route, il disparut. Par une présence d'esprit, et un peu, aussi, machinalement, je sautai à cheval. Puis je restai immobile. Maintenant, j'étais seul sur le grand chemin. J'entendais les mille bruits de la campagne. En rouvrant les yeux, je vis l'immense ciel livide où filaient de nombreux nuages ternes, cachant la lune, la nature solitaire. Cependant, je me tins droit et ferme, quoique je dusse être blanc comme un linge. « Voyons, me dis-je, du calme. J'ai la fièvre et je suis somnambule. Voilà tout. » Je m'efforçai de hausser les épaules, un poids secret m'en empêcha. Et voici que, venu du fond de l'horizon, du fond de ces boîtes décriées, une volée d'orfraies, à grand bruit d'ailes, passa, en criant d'horribles syllabes inconnues, au-dessus de ma tête. Elles allèrent s'abattre sur le toit du presbytère et sur le clocher dans l'éloignement, et le vent m'apporta des cris tristes. Ma foi, j'eus peur. Pourquoi ? Qui me le précisera jamais ? J'ai vu le feu, j'ai touché de la mienne plusieurs épées. Mes nerfs sont mieux trempés, peut-être, que ceux des plus flegmatiques et des plus blafards. J'affirme, toutefois, très humblement, que j'ai eu peur, ici, et pour de bon. J'en ai conçu, même, pour moi, quelque estime intellectuelle. N'a pas peur de ces choses-là qui veut. Donc, en silence, j'ensanglantai les flancs du pauvre cheval, et les yeux fermés, les rênes lâchées, les doigts crispés sur les crins, le manteau flottant derrière moi tout droit, je sentis que le galop de ma bête était aussi violent que possible. Elle allait ventre à terre. De temps en temps, mon sourd grondement, à son oreille, lui communiquait à coup sûr et d'instinct l'horreur superstitieuse dont je frissonnais malgré moi. Nous arrivâmes, de la sorte, en moins d'une demi-heure. Le bruit du pavé des faubourgs me fit redresser la tête et respirer. Enfin, je voyais des maisons, des boutiques éclairées, les figures de mes semblables derrière les vitres. Je voyais des passants. Je quittais le pays des cauchemars. À l'auberge, je m'installai devant le bon feu. La conversation des rouliers me jeta dans un état voisin de l'extase. Je sortais de la mort. Je regardais la flamme entre mes doigts. J'avalais un verre de rhum. Je reprenais, enfin, le gouvernement de mes facultés. Je me sentais rentrer dans la vie réelle. J'étais même, disons-le, un peu honteux de ma panique. Aussi, comme je me sentis tranquille, lorsque j'accomplis la commission de l'abbé Maucombe, avec quel sourire mondain j'examinais le manteau noir en le remettant à l'hôtelier, l'hallucination était dissipée. J'eusse fait, volontiers, comme dit Rabelais, le bon compagnon. Le manteau en question ne me parut rien offrir d'extraordinaire, ni, même, de particulier, si ce n'est qu'il était très vieux, et même rapiécé, recousu, redoublé avec une espèce de tendresse bizarre. Une charité profonde, sans doute, portait l'abbé Maucombe à donner en aumône le prix d'un manteau neuf. Du moins, je m'expliquais la chose de cette façon. « Cela se trouve bien, » dit l'aubergiste. « Le garçon doit aller au village tout à l'heure. Il va partir. Il rapportera le manteau chez M. Maucombe en passant, avant 10 heures. » Une heure après, dans mon wagon, les pieds sur la chauffeuse, enveloppé dans ma houppelande reconquise, je me disais, en allumant un bon cigare et en écoutant le bruit du sifflet de la locomotive, « Décidément, j'aime encore mieux ce cri-là que celui des hiboux. » Je regrettais un peu, je dois l'avouer, d'avoir promis de revenir. Là-dessus, je m'endormis, enfin, d'un bon sommeil, oubliant complètement ce que je devais traiter désormais de coïncidence insignifiante. Je dus m'arrêter 6 jours à Chartres pour collationner des pièces qui, depuis, amenèrent la conclusion favorable de notre procès. Enfin, l'esprit obsédé d'idées de paperasse et de chicane, et sous l'abattement de mon maladif ennui, je revins à Paris juste le soir du 7e jour de mon départ du presbytère. J'arrivai directement chez moi, sur les 9 heures. Je montai, je trouvai mon père dans le salon. Il était assis, auprès d'un guéridon, éclairé par une lampe. Il tenait une lettre ouverte à la main. Après quelques paroles, « Tu ne sais pas, j'en suis sûr, quelle nouvelle m'apprend cette lettre. me dit-il. Notre bon vieil abbé Maucombe est mort depuis ton départ. Je ressentis, à ces mots, une commotion.
Hein ?
Répondis-je. Oui, mort. Avant-hier, vers minuit. 3 jours après ton départ de son presbytère, d'un froid gagné sur le grand chemin. Cette lettre est de la vieille Nanon. La pauvre femme paraît avoir la tête si perdue, même, qu'elle répète 2 fois une phrase singulière, à propos d'un manteau. Lis donc toi-même. Il me tendit la lettre où la mort du Saint-Prêtre nous était annoncée, en effet, et où je lus ces simples lignes. Il était très heureux, disait-il à ses dernières paroles, d'être enveloppé à son dernier soupir et enseveli dans le manteau qu'il avait rapporté de son pèlerinage en Terre Sainte et qui avait touché le tombeau. Fin de l'intersigne.
L'inconnu des contes cruels. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Lérisanne. Conte cruel par Auguste de Villiers de l'Isle-Adam. L'inconnu. À Madame la Comtesse de la Clos. Le cygne se tait toute sa vie pour bien chanter une seule fois. Proverbe ancien. C'était l'enfant sacré qu'un beau vers fait pâlir. Adrien Juvigné. Ce soir-là, tout Paris resplendissait aux Italiens. On donnait la Norma, c'était la soirée d'adieu de Maria Félicia Malibran. La salle entière, aux derniers accents de la prière de Bellini, Casta Diva, s'était levée et rappelait la cantatrice dans un tumulte glorieux. On jetait des fleurs, des bracelets, des couronnes. Un sentiment d'immortalité enveloppait l'auguste artiste, presque mourante, et qui s'enfuyait en croyant chanter. Au centre des fauteuils d'orchestre, un tout jeune homme dont la physionomie exprimait une âme résolue et fière, manifestait, brisant ses gants à force d'applaudir, l'admiration passionnée qu'il subissait. Personne dans le monde parisien ne connaissait ce spectateur. Il n'avait pas l'air provincial, mais étranger. En ses vêtements un peu neufs, mais d'un lustre éteint et d'une coupe irréprochable, assis dans ce fauteuil d'orchestre, il eût paru presque singulier sans les instinctives et mystérieuses élégances qui ressortaient de toute sa personne. En l'examinant, on eût cherché autour de lui de l'espace, du ciel et de la solitude. C'était extraordinaire. Mais Paris, n'est-ce pas la ville de l'extraordinaire? Qui était-ce? Et d'où venait-il? C'était un adolescent sauvage, un orphelin seigneurial, l'un des derniers de ce siècle, un mélancolique châtelain du Nord échappé, depuis 3 jours, de la nuit d'un manoir des Cornouailles. Il s'appelait le comte Félicien de la Vierge. Il possédait le château de Blanchelande en Basse-Bretagne. Une soif d'existence brûlante, une curiosité de notre merveilleux enfer, avait pris et enfiévré tout à coup ce chasseur, là-bas. Il s'était mis en voyage et il était là tout simplement. Sa présence à Paris ne datait que du matin, de sorte que ses grands yeux étaient encore splendides. C'était son premier soir de jeunesse. Il avait 20 ans. C'était son entrée dans un monde de flammes, d'oubli, de banalité, d'or et de plaisir. Et par hasard, il était arrivé à l'heure pour entendre l'adieu de celle qui partait. Peu d'instants lui avaient suffi pour s'accoutumer au resplendissement de la salle. Mais aux premières notes de la Malibran, son âme avait tressailli, la salle avait disparu. L'habitude du silence des bois, du vent rauque des écueils, du bruit de l'eau sur les pierres des torrents et des graves tombées du crépuscule, avait élevé en poète ce fier jeune homme, et dans le timbre de la voix qu'il entendait, il lui semblait que l'âme de ces choses lui envoyait la prière lointaine de revenir. Au moment où, transporté d'enthousiasme, il applaudissait l'artiste inspiré, ses mains demeurèrent en suspens, il resta immobile. Au balcon d'une loge venait d'apparaître une jeune femme d'une grande beauté. Elle regardait la scène. Les lignes fines et nobles de son profil perdu sombraient des rouges ténèbres de la loge, tel un camée de Florence en son médaillon. Pâlie, un gardénia dans ses cheveux bruns, et toute seule, elle appuyait au bord du balcon sa main dont la forme décelait une lignée illustre. Au joint du corsage de sa robe de moire noire, voilée de dentelle, une pierre malade, une admirable opale à l'image de son âme, sans doute, luisait dans un cercle d'or. L'air solitaire, indifférent à toute la salle, elle paraissait s'oublier elle-même sous l'invincible charme de cette musique. Le hasard voulut cependant qu'elle détournât, vaguement, les yeux vers la foule. En cet instant, les yeux du jeune homme et les siens se rencontrèrent, le temps de briller et de s'éteindre une seconde. S'était-il connu jamais? Non, pas sur la terre. Mais que ceux-là qui peuvent dire où commence le passé décident où ces deux êtres s'étaient, véritablement, déjà possédés, car ce seul regard leur avait persuadé, cette fois et pour toujours, qu'ils ne dataient pas de leur berceau. L'éclair illuminé d'un seul coup, les lames et les écumes de la mer nocturne, et à l'horizon les lointaines lignes d'argent des flots, ainsi l'impression dans le cœur de ce jeune homme, sous ce rapide regard, ne fut pas graduée. Ce fut l'intime et magique éblouissement d'un monde qui se dévoile. Il ferma les paupières comme pour y retenir les deux lueurs bleues qui s'y étaient perdues, puis il voulut résister à ce vertige oppresseur. Il releva les yeux vers l'inconnu. Pensive, elle appuyait encore son regard sur le sien, comme si elle eût compris la pensée de ce sauvage amant et comme si c'eût été chose naturelle. Félicien se sentit pâlir. L'impression lui vint, en ce coup d'œil, de deux bras qui se joignaient languissants autour de son cou. C'en était fait. Le visage de cette femme venait de se réfléchir dans son esprit, comme un miroir familier, de s'y incarner, de s'y reconnaître, de s'y fixer à tout jamais sous une magie de pensée presque divine. Il aimait du premier et inoubliable amour. Cependant, la jeune femme, dépliant son éventail dont les dentelles noires touchaient ses lèvres, semblait rentrer dans son inattention. Maintenant, on eût dit qu'elle écoutait exclusivement les mélodies de la Norma. Au moment d'élever sa lorgnette vers la loge, Félicien sentit que ce serait une inconvenance. « Puisque je l'aime, se dit-il. » Impatient de la fin de l'acte, il se recueillait. Comment lui parler? Apprendre son nom. Il ne connaissait personne. Consulter demain le registre des Italiens? Et si c'était une loge de hasard, achetée à cause de cette soirée? L'heure pressait, la vision allait disparaître. Eh bien, sa voiture suivrait la sienne, voilà tout. Il lui semblait qu'il n'y avait pas d'autre moyen. Ensuite, il aviserait. Puis, il se dit en sa naïveté sublime, si elle m'aime, elle s'apercevra bien et me laissera quelque indice. La toile tomba. Félicien quitta la salle très vite. Une fois sous le péristyle, il se promena simplement devant les statues. Son valet de chambre s'étant approché, il lui chuchota quelques instructions. Le valet se retira dans un angle et y demeura très attentif. Le vaste bruit de l'ovation faite à la cantatrice cessa peu à peu, comme tous les bruits de triomphe de ce monde. On descendait le grand escalier. Félicien, l'œil fixé au sommet, entre les deux vases de marbre d'où ruisselait le fleuve éblouissant de la foule, attendit. Ni les visages radieux, ni les parures, ni les fleurs au front des jeunes filles, ni les camailles d'Hermine, ni le flot éclatant qui s'écoulait devant lui sous les lumières, il ne vit rien. Et toute cette assemblée s'évanouit bientôt, peu à peu, sans que la jeune femme apparût. L'avait-il donc laissé s'enfuir sans la reconnaître? Non, c'était impossible. Un vieux domestique, poudré, couvert de fourrure, se tenait encore dans le vestibule. Sur les boutons de sa livrée noire brillaient les feuilles d'ache d'une couronne ducale. Tout à coup, au haut de l'escalier solitaire, elle parut, seule, svelte, sous un manteau de velours et les cheveux cachés par une mantille de dentelle. Elle appuyait sa main gantée sur la rampe de marbre. Elle aperçut Félicien debout auprès d'une statue, mais ne sembla pas se préoccuper davantage de sa présence. Elle descendit paisiblement. Le domestique s'étant approché, elle prononça quelques paroles à voix basse. Le laquais s'inclina et se retira sans plus attendre. L'instant d'après, on entendit le bruit d'une voiture qui s'éloignait. Alors elle sortit. Elle descendit, toujours seule, les marches extérieures du théâtre. Félicien prit à peine le temps de jeter ces mots à son valet de chambre. « Rentrez seul à l'hôtel. » En un moment, il se trouva sur la place des Italiens, à quelques pas de cette dame. La foule s'était dissipée, déjà, dans les rues environnantes. L'écho lointain des voitures s'affaiblissait. Il faisait une nuit d'octobre, sèche, étoilée. L'inconnue marchait, très lente et comme peu habituée. La suivre? Il le fallait, il s'y décida. Le vent d'automne lui apportait le parfum d'ambre très faible qui venait d'elle, le traînant et sonore froissement de la moire sur l'asphalte. Devant la rue Monsigny, elle s'orienta une seconde, puis marcha comme indifférente jusqu'à la rue de Grammont, déserte et à peine éclairée. Tout à coup, le jeune homme s'arrêta. Une pensée lui traversa l'esprit. C'était une étrangère, peut-être. Une voiture pouvait passer et l'emporter à tout jamais. Demain, se heurter aux pierres d'une ville, toujours, sans la retrouver. Être séparé d'elle, sans cesse, par le hasard d'une rue, d'un instant qui peut durer l'éternité. Quel avenir ! Cette pensée le troubla jusqu'à lui faire oublier toute considération de bienséance. Il dépassa la jeune femme à l'angle de la sombre rue. Alors il se retourna, devint horriblement pâle, et s'appuyant au pilier de fonte du réverbère, il la salua. Puis très simplement, pendant qu'une sorte de magnétisme charmant sortait de tout son être, « Madame, dit-il, vous le savez, je vous ai vue ce soir pour la première fois. Comme j'ai peur de ne plus vous revoir, il faut que je vous dise. » Il défaillait. « Que je vous aime, acheva-t-il à voix basse, et que si vous passez, je mourrai sans redire ces mots à personne. » Elle s'arrêta, leva son voile et considéra Félicien avec une fixité attentive. Après un court silence, « Monsieur, répondit-elle d'une voix dont la pureté laissait transparaître les plus lointaines intentions de l'esprit, « Monsieur, le sentiment qui vous donne cette pâleur et ce maintien doit être en effet bien profond pour que vous trouviez en lui la justification de ce que vous faites. Je ne me sens donc nullement offensée. Remettez-vous et tenez-moi pour une amie. » Félicien ne fut pas étonné de cette réponse. Il lui semblait naturel que l'idéal répondît idéalement. La circonstance était de celle, en effet, où tous deux avaient à se rappeler, s'ils en étaient dignes, qu'ils étaient de la race de ceux qui font les convenances et non de la race de ceux qui les subissent. Ce que le public des humains appelle à tout hasard les convenances n'est qu'une imitation mécanique, servile et presque simiesque de ce qui a été vaguement pratiqué par des êtres de haute nature en des circonstances générales. Avec un transport de tendresse naïve, il baisa la main qu'on lui offrait. « Voulez-vous me donner la fleur que vous avez portée dans vos cheveux toute la soirée ?» L'inconnu ôta silencieusement la pâle fleur sous les dentelles et l'offrant à Félicien. « Adieu maintenant, dit-elle, et à jamais. » « Adieu ? » balbutia-t-il. « Vous ne m'aimez donc pas ? Ah, oh, vous êtes marié ? » s'écria-t-il tout à coup. « Non. Libre ? Ô ciel ! Oubliez-moi cependant, il le faut, monsieur. Mais vous êtes devenu, en un instant, le battement de mon cœur. Est-ce que je puis vivre sans vous ? Le seul air que je veuille respirer, c'est le vôtre. Ce que vous dites, je ne le comprends plus. Vous oubliez ? Comment cela ? Un terrible malheur m'a frappé. Vous en faire l'aveu serait vous attrister jusqu'à la mort. C'est inutile. Quel malheur peut séparer ceux qui s'aiment ? Celui-là. En prononçant cette parole, elle ferma les yeux. La rue s'allongeait, absolument déserte. Un portail donnant sur un petit enclos, une sorte de triste jardin, était grand ouvert auprès d'eux. Il semblait leur offrir son ombre. Félicien, comme un enfant irrésistible qui adore, l'emmena sous cette voûte de ténèbres en enveloppant la taille qu'on lui abandonnait. L'enivrante sensation de la soie tendue et tiède qui se moulait autour d'elle lui communiqua le désir fiévreux de l'étreindre, de l'emporter, de se perdre en son baiser. Il résista, mais le vertige lui ôtait la faculté de parler. Il ne trouva que ces mots balbutiés et indistincts. « Mon Dieu, mais comme je vous aime !» Alors cette femme inclina la tête sur la poitrine de celui qu'il aimait, et d'une voix amère et désespérée. « Je ne vous entends pas. Je meurs de honte. Je ne vous entends pas. Je n'entendrai pas votre nom. Je n'entendrai pas votre dernier soupir. Je n'entends pas les battements de votre cœur qui frappent mon front et mes paupières. Ne voyez-vous pas l'affreuse souffrance qui me tue ? Je suis... Ah ! Je suis sourde. Sourde ? S'écria Félicien, foudroyé par une froide stupeur et frémissant de la tête aux pieds. Oui, depuis des années. Oh, toute la science humaine serait impuissante à me ressusciter de cet horrible silence. Je suis sourde comme le ciel et comme la tombe, monsieur. C'est à maudire le jour, mais c'est la vérité. Ainsi, laissez-moi. Sourde ? Répétait Félicien, qui sous cette inimaginable révélation était demeuré sans pensée, bouleversé et hors d'état même de réfléchir à ce qu'il disait. Sourde ? Puis tout à coup. Mais ce soir, aux Italiens, s'écria-t-il, vous applaudissiez cependant cette musique. Il s'arrêta, songeant qu'elle ne devait pas l'entendre. La chose devenait brusquement si épouvantable qu'elle provoquait le sourire. Aux Italiens ? Répondit-elle en souriant elle-même. Vous oubliez que j'ai eu le loisir d'étudier le semblant de bien des émotions. Suis-je donc la seule ? Nous appartenons au rang que le destin nous donne, et il est de notre devoir de le tenir. Cette noble femme qui chantait méritait bien quelques marques suprêmes de sympathie. Pensez-vous d'ailleurs que mes applaudissements différaient beaucoup de ceux des dilettanti les plus enthousiastes ? J'étais musicienne autrefois. À ces mots, Félicien la regarda, un peu égaré, et s'efforçant de sourire encore. « Oh, dit-il, est-ce que vous vous jouez d'un cœur qui vous aime à la désolation ? Vous vous accusez de ne pas entendre, et vous me répondez. « Hélas, dit-elle, c'est que ce que vous dites, vous le croyez personnel, mon ami. Vous êtes sincère, mais vos paroles ne sont nouvelles que pour vous. Pour moi, vous récitiez un dialogue dont j'ai appris d'avance toutes les réponses. Depuis des années, il est pour moi toujours le même. C'est un rôle dont toutes les phrases sont dictées et nécessitées avec une précision vraiment affreuse. Je le possède à un tel point que si j'acceptais, ce qui serait un crime, d'unir ma détresse, ne fût-ce que quelques jours, à votre destinée, vous oublieriez à chaque instant la confidence funeste que je vous ai faite. L'illusion, je vous la donnerai complète, exacte, ni plus ni moins qu'une autre femme, je vous assure. Je serai même incomparablement plus réelle que la réalité. Songez que les circonstances dictent toujours les mêmes paroles et que le visage s'harmonise toujours un peu avec elles. Vous ne pourriez croire que je ne vous entends pas tant je devinerais juste. N'y pensons plus, voulez-vous ? Il se sentit effrayé cette fois. « Ah ! Dit-il, quelles amères paroles vous avez le droit de prononcer. Mais moi, s'il en est ainsi, je veux partager avec vous fût-ce éternel silence, s'il le faut. Pourquoi voulez-vous m'exclure de cette infortune ? Juste partager votre bonheur, et notre âme peut suppléer à tout ce qui existe. » La jeune femme tressaillit, et ce fut avec des yeux pleins de lumière qu'elle le regarda. « Voulez-vous marcher un peu en me donnant le bras dans cette rue sombre ? » dit-elle. « Nous nous figurerons que c'est une promenade pleine d'arbres, de printemps et de soleil. J'ai quelque chose à vous dire, moi aussi. » Que je ne redirai plus. » Les deux amants, le cœur dans l'étau d'une tristesse fatale, marchèrent la main dans la main comme des exilés. « Écoutez-moi, dit-elle, vous qui pouvez entendre le son de ma voix, pourquoi donc ai-je senti que vous ne m'offensiez pas ? Et pourquoi vous ai-je répondu ? Le savez-vous ? Certes, il est tout simple que j'ai acquis la science de lire, sur les traits d'un visage et dans les attitudes, les sentiments qui déterminent les actes d'un homme. Mais ce qui est tout différent, c'est que je pressente, avec une exactitude aussi profonde et pour ainsi dire presque infinie, la valeur et la qualité de ces sentiments ainsi que leur intime harmonie en celui qui me parle. Quand vous avez pris sur vous de commettre envers moi cette épouvantable inconvenance de tout à l'heure, j'étais la seule femme peut-être qui pouvait en saisir, à l'instant même, la véritable signification. Je vous ai répondu parce qu'il m'a semblé voir luire sur votre front ce signe inconnu qui annonce ceux dont la pensée, loin d'être obscurcie, dominée et bâillonnée par leur passion, grandit et divinise toutes les émotions de la vie et dégage l'idéal contenu dans toutes les sensations qu'ils éprouvent. Ami, laissez-moi vous apprendre mon secret. La fatalité d'abord si douloureuse qui a frappé mon être matériel est devenue pour moi l'affranchissement de bien des servitudes. Elle m'a délivré de cette surdité intellectuelle dont la plupart des autres femmes sont les victimes. Elle a rendu mon âme sensible aux vibrations des choses éternelles dont les êtres de mon sexe ne connaissent à l'ordinaire que la parodie. Leurs oreilles sont murées à ces merveilleux échos, à ces prolongements sublimes, de sorte qu'elles ne doivent à l'acuité de leur ouïe que la faculté de percevoir ce qu'il y a, seulement, d'instinctif et d'extérieur dans les voluptés les plus délicates et les plus pures. Ce sont les Hespérides, gardiennes de ces fruits enchantés, dont elles ignorent à jamais la magique valeur. Hélas, je suis sourde. Mais elles, qu'entendent-elles? Ou plutôt, qu'écoutent-elles dans les propos qu'on leur adresse, sinon le bruit confus, en harmonie avec le jeu de physionomie de celui qui leur parle? De sorte qu'inattentives non pas au sens apparent, mais à la qualité révélatrice et profonde, au véritable sens enfin de chaque parole, elles se contentent d'y distinguer une intention de flatterie qui leur suffit amplement. C'est ce qu'elles appellent le positif de la vie, avec un de ces sourires. Oh, vous verrez si vous vivez. Vous verrez quel mystérieux océan de candeur, de suffisance et de basse frivolité cache uniquement ce délicieux sourire. L'abîme d'amour charmant, divin, obscur, véritablement étoilé comme la nuit, qu'éprouvent les êtres de votre nature, essayez de le traduire à l'une d'entre elles. Si vos expressions filtrent jusqu'à son cerveau, elles s'y déformeront comme une source pure qui traverse un marécage, de sorte qu'en réalité, cette femme ne les aura pas entendues. La vie est impuissante à combler ses rêves, disent-elles, et vous lui demandez trop. Ah, comme si la vie n'était pas faite par les vivants. Mon Dieu, murmura Félicien. Oui, poursuivit l'inconnu, une femme n'échappe pas à cette condition de la nature, la surdité mentale, à moins peut-être de payer sa rançon d'un prix inestimable, comme moi. Vous prêtez aux femmes un secret, parce qu'elles ne s'expriment que par des actes. Fières, orgueilleuses de ce secret qu'elles ignorent elles-mêmes, elles aiment à laisser croire qu'on peut les deviner. Et tout homme, flatté de se croire le divinateur attendu, malverse de sa vie pour épouser un sphinx de pierre. Et nul d'entre eux ne peut s'élever d'avance jusqu'à cette réflexion qu'un secret, si terrible qu'il soit, s'il n'est jamais exprimé, est identique au néant. L'inconnu s'arrêta. « Je suis amère ce soir, » continua-t-elle. « Voici pourquoi. Je n'enviais plus ce qu'elles possèdent, ayant constaté l'usage qu'elles en font et que j'en eusse fait moi-même sans doute. Mais vous voici, vous qu'autrefois j'aurais tant aimé. Je vous vois, je vous devine, je reconnais votre âme dans vos yeux. Vous me l'offrez et je ne puis vous la prendre. » La jeune femme cacha son front dans ses mains. « Oh !» répondit tout bas Félicien, les yeux en pleurs. « Je puis du moins baiser la tienne dans le souffle de tes lèvres. Comprends-moi, laisse-toi vivre, tu es si belle. Le silence de notre amour le fera plus ineffable et plus sublime. Ma passion grandira de toute ta douleur, de toute notre mélancolie. Chère femme épousée à jamais, viens vivre ensemble. » Elle le contemplait de ses yeux aussi baignés de larmes et posant la main sur le bras qui l'enlaçait. « Vous allez déclarer vous-même que c'est impossible, » dit-elle. « Écoutez encore, je veux achever, en ce moment, de vous révéler toute ma pensée, car vous ne m'entendez plus et je ne veux pas être oubliée. » Elle parlait lentement et marchait, la tête inclinée sur l'épaule du jeune homme. « Vivre ensemble, dites-vous. Vous oubliez qu'après les premières exaltations, la vie prend des caractères d'intimité où le besoin de s'exprimer exactement devient inévitable. » C'est un instant sacré, et c'est l'instant cruel où ceux qui se sont épousés, inattentifs à leurs paroles, reçoivent le châtiment irréparable du peu de valeur qu'ils ont accordé à la qualité du sens réel, unique, enfin, que ces paroles recevaient de ceux qui les énonçaient. Plus d'illusions, se disent-ils, croyant ainsi masquer, sous un sourire trivial, le douloureux mépris qu'ils éprouvent en réalité pour leur sorte d'amour et le désespoir qu'ils ressentent de se l'avouer à eux-mêmes. Car ils ne veulent pas s'apercevoir qu'ils n'ont possédé que ce qu'ils désiraient. Il leur est impossible de croire que, hors la pensée qui transfigure toute chose n'est qu'illusion ici-bas, et que toute passion, acceptée et conçue dans la seule sensualité, devient bientôt plus amère que la mort pour ceux qui s'y sont abandonnés. Regardez au visage des passants, et vous verrez si je m'abuse. Mais nous, demain, quand cet instant serait venu, j'aurai votre regard, mais je n'aurai pas votre voix. J'aurai votre sourire, mais non vos paroles. Et je sens que vous ne devez point parler comme les autres. Votre âme, primitive et simple, doit s'exprimer avec une vivacité presque définitive, n'est-ce pas? Toutes les nuances de votre sentiment ne peuvent donc être trahies que dans la musique même de vos paroles. Je sentirais bien que vous êtes tout rempli de mon image, mais la forme que vous donnez à mon être dans vos pensées, la façon dont je suis conçu par vous et qu'on ne peut manifester que par quelques mots trouvés chaque jour, cette forme sans ligne précise et qui, à l'aide de ces mêmes mots divins, reste indécise et tente à se projeter dans la lumière pour s'y fondre et passer dans cet infini que nous portons en notre cœur, cette seule réalité, enfin, je ne la connaîtrai jamais. Non, cette musique ineffable, cachée dans la voix d'un amant, ce murmure aux inflexions inouïes qui enveloppe et fait pâlir, je serais condamnée à ne pas l'entendre. Ah, celui qui écrivit sur la première page d'une symphonie sublime, c'est ainsi que le destin frappe à la porte, avait connu la voix des instruments avant de subir la même affliction que moi. Il se souvenait en écrivant. Mais moi, comment me souvenir de la voix avec laquelle vous venez de me dire, pour la première fois, « Je vous aime ». En écoutant ces paroles, le jeune homme était devenu sombre. Ce qu'il éprouvait, c'était de la terreur. « Oh ! S'écria-t-il, mais vous en trouverez dans mon cœur des gouffres de malheur et de colère. J'ai le pied sur le seuil du paradis et il faut que je referme, sur moi-même, la porte de toutes les joies. Êtes-vous la tentatrice suprême ? Enfin, il me semble que je vois luire dans vos yeux je ne sais quel orgueil de m'avoir désespéré. Va, je suis celle qui ne t'oubliera pas, répondit-elle. Comment t'oublier les mots pressentis qu'on n'a pas entendus ? Madame, hélas, vous tuez à plaisir toute la jeune espérance que j'ensevelis en vous. Cependant, si tu es présente où je vivrai, l'avenir, nous le vaincrons ensemble. Aimons-nous avec plus de courage. Laisse-toi venir. Par un mouvement inattendu et féminin, elle noua ses lèvres aux siennes, dans l'ombre, doucement, pendant quelques secondes. Puis elle lui dit avec une sorte de lassitude, « Ami, je vous dis que c'est impossible. Il est désert de mélancolie où, irrité de mon infirmité, vous chercheriez des occasions de la constater plus vivement encore. Vous ne pourriez oublier que je ne vous entends pas, ni me le pardonner, je vous assure. Vous seriez fatalement entraîné, par exemple, à ne plus me parler, à ne plus articuler de syllabes auprès de moi. Vos lèvres seules me diraient « je vous aime », sans que la vibration de votre voix troublât le silence. Vous en viendriez à m'écrire, ce qui serait pénible, enfin. Non, c'est impossible. Je ne profanerai pas ma vie pour la moitié de l'amour. Bien que vierge, je suis veuve d'un rêve et veux rester inassouvie. Je vous le dis, je ne puis vous prendre votre âme en échange de la mienne. Vous étiez, cependant, celui destiné à retenir mon être. Et c'est à cause de cela même que mon devoir est de vous ravir mon corps. Je l'emporte, c'est ma prison. Puissais-je en être bientôt délivré? Je ne veux pas savoir votre nom. Je ne veux pas le lire. Adieu, adieu. » Une voiture étincelait à quelques pas, au détour de la rue de Gramont. Félicien reconnut vaguement le laquais du péristyle des Italiens lorsque, sur un signe de la jeune femme, un domestique abaissa le marchepied du coupé. Celle-ci quitta le bras de Félicien, se dégagea comme un oiseau, entra dans la voiture. L'instant d'après, tout avait disparu. Monsieur le comte de la Vierge repartit, le lendemain, pour son solitaire château de Blanchelande, et l'on n'a plus entendu parler de lui. Certes, il pouvait se vanter d'avoir rencontré, de premier coup, une femme sincère, ayant enfin le courage de ses opinions. Fin de l'inconnu. «
Marielle, des contes cruels. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Lérisanne. Contes cruels par Auguste de Villiers de l'Isle-Adam. Marielle. À madame la baronne de la Salle. Avance tes lèvres, dit-elle. Mes baisers ont le goût d'un fruit qui se fondrait dans ton cœur. Gustave Flaubert, La tentation de Saint-Antoine. Sa disparition de ma bille, ses allures nouvelles, la discrète élégance de ses toilettes sombres, ses airs, enfin, de nolim et tangere, joints à de certaines réticences qu'employaient désormais ses favorisés en parlant d'elle, tout cela m'intriguait un peu les esprits au sujet de cette séduisante fille, célèbre jadis dans ses soupers où son fin et joli babil galvanisait jusqu'aux princes les plus moroses de la gomme et que je désire appeler Marielle. Tout semblant de pudeur n'étant parfois, pour les femmes ultra-galantes, qu'une dernière dépravation, je résolus, étant désœuvré, d'approfondir l'énigme. Oui, par un légitime ennui, par une de ces frivolités dont tout philosophe est capable à ses heures et qu'il ne faut point se hâter de blâmer outre mesure, je formai le dessein de rechercher, dès que s'en offrirait l'occasion, jusqu'à quel degré de l'épiderme cette couche de vernis pudique avait pénétré chez elle, ne doutant pas que les premières égratignures d'une conversation savamment épicée n'en fissent sauter pour le moins quelques écailles. Hier, avenue de l'Opéra, je rencontrai la mystérieuse enfant, toute moulée de faille noire, une rose rouge sang à la ceinture, un Gainsborough sur son ovale et fin visage. Marielle compte aujourd'hui 25 automnes. Elle n'est qu'un peu pâlie, toujours svelte, excitante, avec sa beauté de tubéreuse, pimentée d'une distinction de vicomtesse de théâtre et son je ne sais quel charme dans les yeux. Entre deux banalités de circonstances, et la trouvant moins cérémonieuse que je m'y attendais, je l'invitai sans autre façon à venir dîner au bois, cela seul, dans un moulin de couleur quelconque, histoire de s'ennuyer de concert, les premiers soirs de notre énervant septembre devant aider, pensais-je, à ses expansives confidences. Elle déclina d'abord, puis, comme séduite par mon insouciant ton de réserve, elle accepta. 5 heures sonnaient, nous partîmes. La promenade sous les branchages de l'une des plus désertes allées du bois fut silencieuse. Marielle avait baissé son voile, craignant soit d'être vue, soit de me causer quelque gêne. La voiture, d'après son désir, allait au pas. Je ne remarquai rien d'autrement surprenant dans la tenue de notre énigmatique amie, sinon toutefois l'attention inusitée dont elle honora le coucher du soleil. Le dîner fut maintenu sur un diapason tellement officiel que, transporté en un repas de famille bourgeoise le jour de la fête du grand-père, il n'eût choqué personne. Nous parlâmes, je m'en souviens, du prochain salon. Elle était au fait, semblait s'intéresser. Bref, nous étions absurdes à plaisir. C'est si amusant de jouer au gandin. Je préfère cela aux cartes. Pour diversifier et l'attirer vers de plus riants domaines de l'esprit, je me mis à lui détailler, au dessert, l'aventure de ce hobereau vindicatif, lequel ayant surpris, qui, je vous le donne en mille, sa femme, figurez-vous, en conversation légère, blessa mortellement le préféré, puis, pendant que celui-ci rendait l'âme, et comme la jeune éplorée se penchait en grand désespoir sur l'agonisant, imagina, raffinement extrême, de chatouiller dans l'ombre les pieds de l'épouse infidèle, afin de la forcer d'éclater d'un fou rire au nez expirant de l'élu de son cœur. Cette anecdote assaisonnée d'incidentes, ayant induit Marielle à sourire, la glace fut rompue, et nous commençâmes à nous distraire davantage. Lorsqu'on nous eut apporté les candélabres, l'éternel café, les boîtes odorantes de la Havane et les cigarettes russes, comme les fenêtres de notre retrait donnaient sur de grands arbres, je lui dis, en lui montrant le croissant qui faisait étinceler les dernières feuilles d'or bruni, « Ma chère Marielle, te rappelles-tu vaguement l'automne dernier ?» Elle eut un mouvement de tête un peu mélancolique. « Bah !» répondit-elle. « L'hiver suivant, les jolies fleurs de ces 2 soirs dont tu parles sont mortes sous la neige. Tiens, n'essayons pas de raviver un bouquet de sensations fanées. Ce serait nous efforcer vers un nul plaisir. le caprice est envolé. C'est l'oiseau bleu. Laissons la cage ouverte en souvenir. Veux-tu? Restons amis. » L'heure était charmante. Marielle venait de dire une chose aussi sensée qu'exquise. Quoi de mieux possible désormais qu'une causerie? Elle voyait qu'en cet instant du moins, j'avais plutôt souci du mot de son attitude nouvelle que de ses chers abandons. Cependant, je me crus obligé, par une délicatesse, de prendre un air attristé quelque peu, simple attention que tout homme bien élevé doit toujours et quand même à une créature gracieuse. Elle me devina sans doute, et la sympathique alouette voulut bien se laisser prendre au miroir. Nous nous tendîmes la main en souriant, et ce fut fini. Et voici qu'entre deux petites gorgées de menthe blanche, m'ayant élu pour confident sous le fallacieux peut-être, mais le rassurant prétexte que je ne suis pas comme les autres, ce qui était à dire, en réalité, pour causer à tout prix de l'intime préoccupation qui l'étouffait, Marielle me narra la suivante histoire, après m'avoir arraché cette promesse que je tiens en ce moment, d'en masquer l'héroïne, s'il m'arrivait d'en parler un jour, sous le loup de velours d'un impénétrable et gracieux pseudonymat. Voici l'histoire sans commentaire. C'est seulement sa manière d'être banale qui m'a semblé assez extraordinaire. L'hiver dernier, au théâtre, Marielle avait été l'objet, paraît-il, de l'attention d'un très jeune spectateur absolument inconnu du tout Paris des rues Blanches et Condorcet. Oui, d'un enfant de 17 ou 18 ans, de mise élégante et simple, et dont la jumelle s'était plusieurs fois levée vers sa loge. Lorsque la belle Marielle est habillée en toilette montante, il faut vous dire qu'un provincial pourra toujours la prendre pour quelque échappée d'un salon de moderne préfète. La dangereuse créature a cela pour elle qu'elle n'est dénuée ni d'orthographe, ni d'un certain tact, grâce auquel elle devient selon les gens qui lui parlent, et assez vite pour produire l'illusion. La romance, une fois commencée, elle ne détonne plus, qualité rare. Elle s'était accompagnée ce soir-là d'une forte marchande à la toilette, à qui, dès le premier coup de lorgnette du monsieur, elle intima tout bas la plus rigoureuse tenue. En sorte que dès le second acte, Marielle eût semblé, à des yeux même sagaces, une rentière veuve et indifférente, flanquée d'une parente éloignée. Le monsieur n'était donc autre que cet adolescent de 17 ans à peine, de beaux yeux, un air crédule, l'innocence même. Un page. Or, l'aspect imposant et piquant à la fois de la brillante personne ayant ému, se semble, outre mesure, notre jeune homme, il erra dans les couloirs sans oser, bien entendu. Et pour tout dire, à l'issue de la représentation, il suivit en voiture l'humble fiacre de ces dames. En fine mouche, Marielle se réfugia ce soir-là chez sa marchande à la toilette. Des ordres furent donnés pour, si l'on venait prendre des renseignements. Bref, elle devint en deux temps l'honnête veuve de passage à Paris, du militaire en retraite, âgé, décoré, auquel une famille intéressée l'avait sacrifié de bonne heure. Enfin, rien n'y manqua, pas même les 2 ans de veuvage avec le portrait du défunt qu'on se procurerait facilement et d'occasion s'il y avait lieu de s'en pourvoir. Il est de tradition que même de nos jours, cette fastidieuse rengaine ne manque jamais son effet sur les imaginations jeunes encore. Marielle s'en tint là, le mieux étant l'ennemi du bien. Plus tard, on aviserait. La nuit, ayant affolé les fiévreuses rêveries de son juvénile amoureux, tout se passa comme, avec son flair de levrette, notre héroïne l'avait pressenti. Le jeune provincial, une fois en possession du nom nouvellement choisi de la dame, écrivit. Marielle, en mettant un pouce léger sur la signature, me donna cette lettre à lire. S'il faut l'avouer, je fus surpris de l'accent sincère de cette épître. Elle émanait à coup sûr d'un trop candide mais très noble garçon. C'était fou, mais c'était exquis. Ah, le charmant et bon petit être! Un respect, une timidité irrésistible. Il donnait son premier amour, cet enfant-là, prenant cette fille bizarre pour la plus réservée des femmes. J'en fus attristé moi-même en songeant au dénouement inévitable. Il s'appelle de son petit nom Raoul, me dit-elle. Il appartient à une excellente famille de la province. Ses parents, des magistrats bien honorables, lui laisseront de l'aisance. Il vient à Paris 3 fois par mois, en s'échappant. Cela dure depuis 6 semaines. Marielle, allumant une cigarette, continua son histoire comme se parlant à elle-même. Ayant des côtés abordables, La belle repentie n'était point demeurée insensible à cette passion si gentiment exprimée. Après deux autres petites lettres d'attendrissement, un voile se déchira pour elle, son âme entrevit l'existence sous un jour inconnu. Une Marion Delorme s'éveilla dans ce corps, jusque-là plongé en des limbes d'inconscience. Bref, un rendez-vous fut accordé. L'enfant, paraît-il, fut inouï, fou de joie, ignorant, ingénu jusqu'au délire, et se sentant pour la première, et dernière fois sans doute, aimé noblement, voilà que cette charmante insensée de Marielle s'emballa elle-même et que l'idylle commença. Elle en devint folle. Oh, rien ne manque au roman, ni le secret à chaque voyage de Raoul, ni la petite maison louée dans un faubourg tranquille, avec des fleurs sur le balcon et donnant sur un pâle jardin. Là seulement ressuscitée des autres, elle palpite de toutes les chastetés, de tous les abandons, de tous les bonheurs ignorés si longtemps. Et en parlant, des larmes brillaient entre les cils de la sentimentale fille. Raoul est un Roméo qui ne saura peut-être jamais le fin mot de sa Juliette, car elle compte disparaître un jour, plus tard. L'autre femme qui était en elle est morte, à l'entendre, ou plutôt n'a pour elle jamais existé. Les femmes ont de ces puissances d'oubli momentané. Elles disent à leurs souvenirs « Vous repasserez demain », et ils obéissent. Mais au fond, tout ce qu'affirment les femmes demeure un peu libre, est-il digne d'autant d'attention que le bruit du vent qui chante dans les feuilles jusqu'à l'hiver? Cependant, ces économies se sont dissipées à meubler, d'une façon délicate et modeste, la demeure en question. Raoul n'est encore ni majeur, ni en possession d'une fortune quelconque. D'ailleurs, fût-il riche, il semblerait impossible à Marielle d'accepter de lui le moindre service d'argent. Elle a peur de l'argent auprès de cet enfant-là. L'argent, cela lui rappellerait les autres. Lui en parler? Jamais. Elle aimerait mieux mourir. Positivement. Elle se trouve justifiée par son amour, de l'inconvenance assez déplacée, de l'indélicatesse même qu'elle commet en ceci vis-à-vis de ce très innocent garçon. Lui, la croyant à l'aise comme une femme de son monde, n'y songe non plus en rien. Il consacre tous ses petits louis à lui acheter soit des fleurs, soit de jolies choses d'art qu'il peut trouver. Voilà tout. Et c'est en effet tout naturel. Entre eux, donc, c'est le ciel. C'est l'estime naïve et pure. C'est le tout simple amour, avec ses ingénues tendresses, ses extases, ses ravissements éperdus. Daphnis et Chloé, balbutiant, voilà leur pendant exact. À ce point du récit, Marielle fit une pause, puis, levant vers les nuages lointains, au-delà de la croisée ouverte aux étoiles, des yeux d'une expression virginale, « Oui, acheva-t-elle, je lui suis fidèle, et rien, rien, je le sens, ne me ferait cesser de l'être. Oui, je me tuerais plutôt, » murmura-t-elle avec une énergie froide et en rougissant de pudeur à la seule idée d'une infidélité imaginaire. « Hein ?» lui répondis-je en relevant la tête et légèrement stupéfait de cet aveu. « Tiens, mais... Georges, cependant... Mais... Gaston Dal... Mais ce bel Aurelio... Mais... Francis X... Il me semblait que... Hein ?» Marielle éclata d'un frais rire aux notes d'or et de cristal. « D'aimable blagueur !» s'écria-t-elle tout à coup, sans transition. « Ah, les importuns obligés, sombre fête alors. Eux ? Ah, bien, certes. » Et elle haussa dédaigneusement les épaules. « Est-ce ma faute s'il faut bien vivre ? » ajouta-t-elle. « J'entends, tu lui demeures fidèle en pensée. » « En pensée comme en sensation, » s'écria de nouveau Marielle avec un mouvement d'Hermine révoltée. Il y eut un silence. « Mon cher, » continua-t-elle, avec un de ces étranges regards féminins où des esprits seuls peuvent lire, « si l'on savait jusqu'à quel point mon histoire, en ceci du moins, devient celle de toutes les femmes, il est si facile de ne point profaner le trésor de joie qui n'appartient qu'à l'amour, à ce sentiment divin que cet enfant et moi nous partageons. Le reste, est-ce que cela nous regarde? Le cœur y est-il pour quelque chose? Le plaisir pour quelque chose? L'ennui même pour quelque chose? En vérité, mon cher poète, ce dont tu veux parler est moins qu'un rêve et ne signifie rien. » Les femmes ont une façon de prononcer le mot rêve et le mot poète qui serait à mourir de rire si on en avait le temps. « Aussi, acheva-t-elle, ai-je le droit de dire que je suis incapable de le tromper ?»« Ah ça, ma chère Marielle, » lui répondis-je en plaisantant, sans prétendre que le convenu de bien des faveurs me soit inintelligible, quelle que soit ma modestie, quelque désir que j'aie de ne caresser aucune chimère, m'autoriserais-tu, voyons, à jurer que moi-même, enfin, je n'étreignis jamais que ton fantôme ? À cette folle question, suggérée peut-être par quelque sensible contrariété, l'animation de son récit l'ayant rendue vraiment des plus ragoûtantes, elle s'accouda sur la table avec mélancolie. Le bout de ses doigts pâles et fins effleurait ses cheveux. Elle regardait, entre ses cils, brûler l'une des bougies du candélabre. Puis, avec un indéfinissable sourire, « Très cher, me dit-elle, après un assez profond silence, c'est gênant ce que tu me demandes. Mais vois-tu bien, nul n'est plus si prodigue de soi-même de nos jours. Et entre autres, ni toi ni moi. Les semblants de l'amour ne sont-ils pas devenus, pour presque tous, préférables à l'amour même ? Ne m'as-tu pas, au fond, donné l'exemple du méchant sacrilège que tu voudrais me reprocher ? Entre nous, ne serais-tu pas embarrassé quelque peu si je t'eusse aimé ? Prends-tu sérieusement le charme, convenu en effet, d'un instant peut-être bien solitaire, bien peu partagé peut-être, pour la fusible et dévorante joie de l'amour ? Quoi ? Tu ravirais, je suppose, un baiser sur les lèvres d'une enfant endormie, et de ceci tu la jugerais coupable d'infidélité à son fiancé, par exemple ? Et la rencontrant au jour, tu oserais t'imaginer sans rire avoir été le rival de celui... Ah, je t'atteste que n'ayant pas même ressenti le frôlement de ce baiser, elle serait dispensée, envers toi, même de l'oubli. Si indifférent que tu me puisses être en amour, tu peux bien croire, sans grande fatuité, j'imagine, que j'ai su distinguer le plaisir qu'a dû me causer ta simple personne de celui que m'a causé aussi ce joli diamant glissé à mon doigt. Ah, certes, avec une délicate et tout à fait simple apparence de souvenir, je l'accorde, mais qui, parlons franc, t'a quitté envers une pauvre fille, galante de son métier, comme ta très humble servante Marielle. Quant au surplus, à ce que je puis t'avoir accordé par enjouement ou par indolence, c'est là l'illusion qu'il faut laisser à jamais envoler, la poussière brillante des ailes de ce papillon s'étant toujours effacée aux doigts assez cruels qui tentèrent de le ressaisir. Mon cher, n'espère pas me persuader que tu n'as connu de l'amour que ces vains abandons mélangés de tristes et nécessaires arrière-pensées. Tu me demandes si tu n'as jamais pressé dans tes bras que mon fantôme, conclut la belle rieuse. Eh bien, permets-moi de te répondre que ta question serait au moins discrète et inconvenante. C'est le mot, sais-tu, si elle n'était pas absurde, car cela ne te regarde pas. Va vite retrouver ton Raoul, misérable, m'écriai-je furieux. A-t-on vu l'impertinente ? Je prétends me consoler en essayant d'écrire ta ridicule histoire. Tu es d'une fidélité à toute épreuve. N'oublie pas le pseudonyme, dit en riant Marielle. Elle mit son chapeau voilé, sa longue mante, se priva de m'embrasser par un dernier sentiment des usages et disparut. Restée seule, je m'accoudai au balcon, regardant s'éloigner sous les arbres de l'allée la voiture qui emportait cette amoureuse vers son amour. Voilà certes une Lucrèce nouvelle, pensai-je. L'herbe, toute lumineuse de l'ondée du soir, brillait sous la fenêtre. J'y jetai par contenance mon cigare éteint. Fin de Marielle.
Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Synovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at synovus.com. Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Synovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at synovus.com.